Bienvenue à Au fil du temps, le balado. Je m'appelle Christine Groux, je suis psychologue, neuropsychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Aujourd'hui, je reçois Catherine Mulcaire, psychologue, et France Moreau, aidante naturelle. France, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes proche aidante, aidante naturelle. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours?
Oui, en fait, je suis devenue aidante naturelle par la force des choses. Mon père est décédé subitement. Puis, il m'avait déjà confié que ma mère était... Il s'en était rendu compte, hein, bien entendu. Ça faisait 40 quelques années qu'ils étaient ensemble et c'est souvent le conjoint ou la conjointe qui connaît si bien sa tendre moitié, qui s'aperçoit au quotidien parce qu'on sait que l'Alzheimer est une maladie très insidieuse, très sournoise et que les gens atteints d'Alzheimer au début de la maladie, ils ont l'air très bien, là, mais dans le quotidien, c'est une toute autre réalité.
Tout à fait, puis le conjoint est souvent un facteur de protection aussi, hein, qui compense pour les difficultés, ça fait que ça paraît un petit peu plus tardivement. On va avoir l'occasion d'en reparler. Catherine, vous êtes psychologue en bureau privé et dans le milieu, dans le réseau public de la santé, donc vous travaillez notamment en CHSLD. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours?
Oui, ça fait plus de 20 ans que je travaille en centre d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD, et je travaille dans 7 centres différents. Et oui, j'ai fait mon parcours surtout avec ces personnes-là auxquelles je me suis beaucoup attachée et à leur famille. Donc, je comprends la situation de Madame Moreau.
Catherine, est-ce que vous pourriez nous dire, selon votre expérience, c'est quoi les étapes qui sont nécessaires à la décision de quitter la maison? Par où les gens passent?
Ce qui est nécessaire, je ne sais pas, parce que ça dépend des familles, ça dépend des gens. Une personne âgée, parce que c'est des personnes âgées dont on parle qui partent en hébergement, il faut réaliser que c'est les personnes qui ont déjà vécu le plus de deuil dans leur vie, des pertes. C'est-à-dire qu'ils ont perdu des amis, ils ont perdu parfois, ils ont arrêté de travailler, il y a les collègues de travail, il y a les enfants qui ont quitté la maison. Donc les pertes sont déjà plus significatives chez ces gens-là. Maintenant, on parle des gens qui doivent partir en hébergement. Il faut réaliser que parfois, ils ne sont pas conscients de ce qui est en train de se passer. J'imagine que pour votre maman, c'est une situation que rationnellement, elle ne peut pas comprendre. Donc, il va falloir la déraciner de chez elle. Et à ce moment-là, le problème, c'est que les habitudes sont tellement ancrées qu'il n'y a plus rien qui sera comme d'habitude. Donc, ce qui est nécessaire, c'est d'essayer de donner un entourage le plus sécurisant possible. Les habitudes, je pense à des détails, mais comment porter son fauteuil, ses photos, sa petite lampe, sa petite table, son couvre-lit, les photos auxquelles elle est habituée, puis essayer de les placer peut-être comme elle ne devait pas énormément bouger de chez elle. Donc, les éléments de la maison qui lui sont chers, si on peut les apporter.
France, comment ça s'est passé pour vous?
J'ai fait affaire très rapidement avec la Société d'Alzheimer. J'ai senti que j'aurais besoin d'aide. Mais il vient un temps où on ne peut plus, même avec la meilleure volonté du monde. Ma mère, c'est comme un enfant de 2 ans, là. Vraiment. Je l'ai lavée, j'ai rasé les jambes, je l'habillais, je l'abordais, je la déshabillais le soir, puis j'aime bon tout ça.
Est-ce que c'est à son contact, en restant avec elle, vous avez réalisé à quel point elle était plus autonome?
Non, ça fait longtemps que je sais que ma mère... Moi, je considère que j'ai eu la maladie d'Alzheimer par procuration.
Oui.
Je suis très proche avec ma mère, on est en symbiose, on fait de la télépathie, elle lit dans ma tête, oh mon Dieu, puis... Puis la maladie, je trouve ça important de le dire parce que je l'ai observé. Ils ne sont pas fous, là, les gens atteints d'Alzheimer. Ils ne perdent pas leur personnalité. Ils ne perdent pas... Moi, ma mère, dans un stade très avancé, m'a dit qu'elle avait besoin de sollicitude. J'en revenais pas qu'elle ait sorti ce mot-là. C'était une femme intelligente, brillante, charmante, drôle, puis elle a encore tout ça.
C'est vraiment important ce que vous dites parce que, puis vous savez, la façon dont les gens réagissent, je pense que Catherine va être d'accord avec moi, ça dépend beaucoup de leur personnalité, ça dépend de leur vécu. Tout le monde ne se construit pas de la même façon, tout le monde ne vit pas de la même façon. Ça dépend aussi du stade de la maladie, puis de la détérioration cognitive. Mais vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. Ils ont un trouble neurodégénératif, mais ils ne sont pas fous. Et c'est drôle parce que un membre de ma famille côtoyait une proche qui avait la maladie d'Alzheimer. Et à un moment donné, dans un éclair de lucidité, cette personne-là lui a dit quelque chose de très personnel, mais de très perspicace. Et donc, la personne que je connais, qui était ma mère, était renversée de ça, me raconte ça, et je lui dis, « Maman, elle a un trouble, mais elle n'est pas folle, justement.
Oui. »
Et donc, ils ne perdent pas tout. Ça, c'est vraiment important. Puis il y a des éclairs de lucidité qui portent votre mère à dire, « J'ai besoin de sollicitude. » Catherine, je vais vous entendre là-dessus. Faire le deuil d'une personne qui est encore présente, c'est presque une agonie. Donc, je pense que les gens qui l'ont vécu diraient ça. Qu'est-ce que vous en dites?
Je pense que madame a tout à fait bien décrit. Et je pense qu'une des choses, c'est que petit à petit, on perd la personne, mais elle est toujours là. Elle est toujours présente. On veut toujours s'en occuper. Mais on ne sait pas devant qui on va se retrouver quand on la laisse. La prochaine fois, elle va être comment? Est-ce qu'elle va me reconnaître? Il ne faut pas oublier la fatigue des proches. Donc, parfois, il y a des gens proches qui vont dire « je n'en peux plus ». Comme vous avez dit tout à l'heure, et ce n'est pas pour mal dire, mais ça finit plus. C'est constant, c'est à chaque fois que vous la voyez, vous sentez toujours la même personne qui est là, mais qui s'effrite, qui s'en va petit à petit. Et c'est un deuil à répétition, constant. Donc, c'est ça le deuil blanc. Et il est parfois beaucoup plus souffrant. Vous avez fait l'expérience, vous disiez, vous avez perdu votre papa de façon subite. Il y a quelque part où c'est correct. Il est parti, ça fait mal. Mais maman, elle part tout le temps. Elle part tout le temps. Et ça, c'est très souffrant.
Oui, et puis de la voir souffrir aussi, parce que...
Elle en souffre.
Mais oui, puis elle le verbalisait, elle le dit aussi. Elle le verbalisait.
Comment ça s'est passé pour vous, France, la décision de... Parce que c'est vous qui l'avez prise, j'imagine, la décision.
J'ai dû m'en mêler.
Alors, comment ça s'est passé? Puis je vous demanderais comment ça s'est passé pour votre mère. Puis ensuite, je vais vous demander comment ça s'est passé pour vous. C'est pas un long fleuve tranquille, on s'entend. Hein? C'est des émotions fortes. Puis c'est des émotions fortes qui nous empêchent de dormir, qui nous empêchent de manger parfois et qui peuvent durer assez longtemps.
Oui,
donc,
oui.
Comment la décision en est arrivée à se prendre pour vous?
Je me suis beaucoup battue pour qu'elle ait les meilleurs... laver sa mère, quand même, c'est quelque chose. Mm-hmm. Puis un matin, mais j'ai dit, bon, faut être diplomate, faut y aller doucement, faut pas les confronter, faut pas les... Tu sais, ça prend beaucoup de douceur. Donc, je l'ai amenée, j'ai commencé à en parler le matin. J'ai dit, ça, c'est très émotif pour moi. Ma mère était mûre. C'est comme un fruit. Elle était prête pour ça.
Comment ça s'est passé dans les jours, les semaines qui ont suivi pour elle?
Bien. J'en reviens pas. Ça, c'est phénoménal. Elle va mieux que moi, là. Comme c'est là.
Mais c'est sûr.
Mais elle va comment actuellement?
Parce que je suis en contact avec la directrice qui est également la propriétaire du lieu d'hébergement. Mm-hmm. Ma mère s'est fait des amis. Elle participe aux activités. Puis elle est tellement... Les personnes atteintes, ils viennent qui n'ont plus de filtre. Mm-hmm. Ma mère, là, elle a l'épicerie avec elle, là, puis là, on sait, c'est la COVID, tout le monde se tasse, on a peur de toucher au monde. Ma mère, a sauté au cou du monde pour les embrasser, puis leur faire des câlins. Ben, en tout cas, les gens ont pas... ils ont bien réagi, mais elle est très, très affectueuse, très... on dirait qu'elle a besoin de ça.
Vous la sentez heureuse dans son nouveau milieu?
Numéro un.
Et vous?
Ben moi, ça fait juste un mois, hein? Fait que la journée de l'admission...
C'est vraiment récent.
La journée de l'admission, la façon qu'ils ont fait ça, j'étais hyper inquiète. parce que ma mère avait déjà fait un délirium lors d'une admission à l'hôpital qui nécessitait une hospitalisation pour une pneumonie. Donc moi, je craignais que ça se passe mal pour elle. Et j'ai été très protectrice de ma mère. Puis à la fin, elle m'appelait ma mère. Je suis devenue la mère de ma mère.
Oui.
Donc, je suis partie parce que je ne pouvais pas assister à ça. La façon dont c'était fait, je trouvais ça... J'étais inquiète pour elle. Fait que j'étais allée m'écrouler. J'ai quelqu'un qui nous a beaucoup aidés, qui a été présent. Puis j'ai été inquiète jusqu'au lendemain. T'sais, cette partie-là n'était pas nécessaire. J'avais...
Puis maintenant, quand vous y allez, comment vous vous sentez?
Je ne suis pas retournée. Quand elle est entrée le mardi, moi, j'étais pas capable de rester toute seule dans la maison.
Non. C'est sûr.
J'en parle, je suis émotive.
C'est épouvantable.
Ma mère était partout, excusez. Ma mère était partout, donc... ouf, j'allais coucher chez des amis. Puis moi, il fallait que je revienne chez nous, là.
Bien sûr.
J'habite à Rimouski. J'habitais pas dans le village qui était à 4 heures de route, là. Oh, mon Dieu, c'était épouvantable. Puis j'étais plus capable, il fallait que je sorte de là. Fait que je suis partie. Puis je retournerai jamais dans la maison familiale. Donc, ça s'est fait d'une façon abrupte pour moi. Par contre, je me raccroche à ça. Ma mère... elle est bien. Puis elle savait, hein, la dernière nuit où je l'ai bordée, puis bon, mis son pyjama, c'est comme un enfant. Elle m'a regardée, puis elle m'a dit, « Fais attention à toi, hein, parce que je t'aime, puis je veux pas qu'il t'arrive à rien. »
C'est magnifique.
Là, c'est un nouveau chapitre qui commence, mm-hmm. et pour elle et pour moi.
Oui.
Et là, ça va être de reprendre toute cette énergie-là, parce que moi, ma vie était centrée sur le bien-être de ma mère. Puis les proches aidants, on s'oublie.
Oui, puis les proches aidants, en fait, c'est, je pense que Catherine, vous observez ça aussi. Moi, je l'ai beaucoup observé. Ce que les proches aidants ont l'impression de prendre pour eux, ils ont l'impression de l'enlever à l'autre. Est-ce que vous avez observé ça? Quand ils prennent du temps pour eux.
Ils ne se le permettent pas. C'est surtout ça. C'est comment est-ce que je peux me permettre un moment d'aller bien si la personne que j'aime ne va pas bien? Alors, ils freinent, même s'ils ont envie de rire, ils vont freiner. S'ils ont une possibilité de sortir, parfois il y a des moments de répit qui sont offerts. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller profiter alors que la personne qu'on aime est mal prise? Donc, il y a tout un réapprivoisement que vous êtes en train de faire maintenant. Dans les moments de répit, peut-être vous pouviez vous permettre... d'aller bien, mais vous alliez vous occuper d'elle après. Là, maintenant, c'est petit à petit reprendre possession de votre vie qui n'est plus tout à fait pareille, avec les mêmes priorités, mais sans vous oublier, au moins, elle vous a dit de prendre soin de vous. Et ça, c'est quelque part une porte qui s'ouvre. Mmh. Au lieu que tout soit fermé, et j'ai envie de dire, elle a eu son rôle de maman.
Ah oui.
Quand elle vous l'a dit.
Oui,
c'est très important que ce rôle-là, elle l'a toujours. Même si c'est des moments qui sont tout petits, quand on peut permettre à ces gens-là de garder le rôle, parce que dans les deuils à faire, il y a le rôle aussi. Le rôle de maman, vous nous avez expliqué qu'elle est comme un enfant de 2 ans, mais dans ces moments où elle vous remercie, dans ces moments où elle vous dit « prends soin de toi », c'est votre maman qui parle.
C'est important et ça, de laisser ce rôle-là.
Il existe. Et même si... D'abord, ça va vous faire du bien à vous, dans votre deuil blanc, jusqu'au deuil, mais dans votre vie personnelle. Mais elle, ça lui donne un sentiment aussi au moment où elle va voir sur le visage, parce que c'est très important de réaliser qu'ils perdent les mots, ils perdent... C'est pour ça que sollicitude est magnifique quand elle vous l'a dit. Mais... est important, ils vont réagir beaucoup plus avec l'instinct.
En fait, France a souvent comparé à sa mère à un enfant de 2 ans. Puis moi, je vous dirais que les gens âgés qui sont en perte cognitive significative sont effectivement... En fait, ils gardent une partie de ce qu'ils sont, comme adultes, comme mère, comme vous l'avez illustré. Mais il y a toute une partie, effectivement, où ils deviennent comme des enfants. Mais les enfants, c'est des capteurs d'ambiance, c'est des capteurs d'émotions, c'est des capteurs d'humeur. Et c'est ça qui reste. Puis même quand la personne a perdu sa cognition, quand elle a perdu la parole, c'est ça qui reste, c'est l'affectivité, c'est-à-dire c'est quand on lui prend les mains. J'avais un collègue qui était assez âgé, qui était psychologue et qui me parlait de son père, puis il disait « Mon père ne me reconnaissait plus, ne se rappelait plus de moi, ne savait plus qui j'étais. » Mais quand j'y prenais les mains, au bout de 5 minutes, il m'appelait par mon prénom. Alors, c'est vraiment des capteurs d'affectivité. J'aimerais vous demander, France, qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à vous adapter au cours du dernier mois? Qu'est-ce qui a été salutaire pour vous?
Ben, je me fais des projets de vie. Mm-hmm. Parce que comment je me sens, vraiment... Puis ça, vous allez trouver l'image forte, là, mais je me sens décrucifiée.
Mmh. Alors, vous êtes à la fois décrucifiée, mais aussi un peu dépossédée.
Ben, il y a un contre-coup.
Un peu dépossédée, oui.
À ça, il y a un contre-coup. Mmh. Puis moi, on m'avait averti quand j'ai décidé d'aller la retrouver chez elle. J'ai été... Mon intervenante m'a dit, je suis obligée de te dire, France, que tu es déjà en usure de compassion et tu risques le burn-out. Donc, oui, les proches aidants, il vient un temps où il faut se rendre compte. Puis n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est le conseil que... Demandez du répit. Allez voir tout ce qui peut vous être offert. Et demandez, quand on est habitué à porter ce fardeau tout seul ou toute seule, c'est vraiment difficile. Mais essayez de demander. Ouais.
Puis ce qui déculpabilise beaucoup, parce que les gens tardent à le faire, hein, c'est l'image du masque à oxygène. Hein. On dit toujours que quand un avion dépressurise, puis qu'on a la charge des personnes, il faut vraiment mettre le masque sur son visage à soi, parce que si on tombe d'un pomme, on ne sauvera pas personne, on n'aidera pas personne. Puis c'est une image forte, ça, mais c'est une image vraie. Catherine, si vous aviez quelques conseils à donner aux gens qui se retrouvent face à une situation où leurs proches...
Proche aidant,
oui.
ou aux personnes qui déménagent.
Commençons par les proches aidants.
De demander de l'aide si nécessaire. Mm-hmm. Demander de l'aide de toute façon.
Parce que c'est nécessaire.
Oui. De prendre des tout petits moments dans la journée pour soi. Au lieu de dire, tiens, je vais aller lui faire sa lessive, si elle dort, là, pourquoi vous ne prenez pas un moment de relaxation pour vous? Ou prenez un thé en lisant un livre, un moment qui vous appartienne dans la journée. Essayez de ponctuer votre journée de tout petits moments qui vous appartiennent. Ça peut être quelque chose qui va aider dans le quotidien. Et après, comme vous dites, il faut refaire... des plans de vie, parce que toute cette énergie, tout ce temps qu'on passait à s'occuper de l'autre, c'est du vide, c'est du on ne sait plus quoi faire. Donc, vous faire des projets, commencer par projet de vie, c'est peut-être gros, mais des petits projets. Tiens, je vais aller au musée tel jour. Tiens, je vais aller magasiner. Tiens, je vais appeler telle personne. Tiens, je vais prendre un bain.
Puis, quel conseil vous donneriez aux aînés maintenant? Qui quittent leur maison.
Quand ils ont des troubles cognitifs, je ne leur donnerai pas vraiment de conseils. Je vais juste les aimer. Puis les aimer fort. Les aimer en le démontrant. La personne qui n'a pas de troubles cognitifs, ben là, la démarche de deuil peut être déjà entamée à l'avance. À partir du moment où la demande de déménagement est faite, il y a déjà un processus qui est fait chez la personne qui va déménager, qui s'est rendue à l'évidence qu'elle ne peut plus rester chez elle. Donc, elle a déjà participé, peut-être qu'elle a visité différents endroits, elle a choisi l'endroit où elle veut aller. Donc, c'est très différent dans les conseils. Donc, le travail de deuil peut être amorcé au moment où la personne se rend à l'évidence qu'elle ne peut plus rester chez elle. Quand c'est des troubles cognitifs, alors elle, comme je vous dis, puis il faut les aimer les deux de toute façon, avec tout l'amour qu'on peut donner, sans s'oublier soi-même.
Moi, je dirais que quand on est proche aidant, puis qu'on décide d'accompagner notre proche pour qu'il change de maison, c'est une façon de mieux l'accompagner, de mieux le soigner, de mieux l'aider, de mieux l'aimer. Justement, parce que c'est pas nécessairement très humain de soigner quelqu'un 24 heures sur 24, 16 jours par semaine.
C'est surtout qu'on devient la cuisinière, mm-hmm. le préposé, l'infirmière, on parlait de rôle tout à l'heure. Son propre rôle n'existe plus, ou seulement par des moments, au moment où elle a mangé, où elle est propre, où elle est... Hein. Là, peut-être vous avez un petit moment mère-fille, mais le reste du temps, c'est tous ces rôles qui sont repris par les gens là où elle habite maintenant, qui fait en sorte que une des choses qui aide le plus, c'est retrouver son propre rôle. Là, vous allez pouvoir rester la fille de votre maman. Quand vous irez la voir, vous êtes sa fille. Alors, si c'est qu'elle aime les éclairs au chocolat, vous pourrez lui apporter un éclair au chocolat, puis profiter d'un thé, un café avec elle en mangeant un éclair au chocolat. Mais là, vous n'avez plus à la laver, vous n'avez pas à faire la lessive, vous n'avez pas à faire à manger, vous n'avez pas à lui donner à manger. Donc, une des choses qui va peut-être vous aider le plus, c'est de retrouver votre rôle de fille dans des moments privilégiés quand vous serez avec elle.
Mais je pense que c'est vrai pour tous les aidants naturels. Je pense que le rôle premier, c'est la relation affective, c'est la relation bienveillante, c'est d'être capable justement de rester le conjoint, la conjointe, la fille, l'enfant, le fils, etc. Ça veut dire regarder des photos, ça veut dire manger du chocolat, ça veut dire aller se promener dans le parc si la personne est capable, ça veut dire chanter, ça veut dire... Puis ça peut vouloir dire crémer, parfumer, dorloter. Ça veut dire plein de choses. Mais c'est effectivement des moments fondamentaux, essentiels, que personne d'autre peut faire à notre place, puis qu'on ne peut plus faire parce qu'on fait toute autre chose, justement. Mesdames, je voudrais vous remercier, France. Un grand, grand, grand merci d'avoir participé à cette émission-là. Et Catherine, un grand, grand merci.
Avec plaisir.
D'avoir participé.
Merci.